Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Olivier Blanchard.
Bonjour.
Ancien chef économiste du FMI, aujourd'hui chercheur au Peterson Institute de Washington, où vous vous trouvez. L'un des mots qui a marqué la semaine, c'est effondrement. Le Premier ministre français a pointé le risque d'effondrement de l'économie si l'activité ne reprend pas. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce qu'à vos yeux, la crise que nous vivons, c'est un très mauvais moment à passer, qui peut être un long moment d'ailleurs, ou est-ce qu'elle est en train de créer des dégâts irréversibles?
Non, c'est un très mauvais moment à passer, c'est certain. L'effondrement, il est, je crois, juste derrière nous. Je crois qu'on a vu le fond du trou et que maintenant, il va falloir remonter. On va remonter doucement. Je pense qu'on va remonter. Il y aura quelques effets, bien sûr, à long terme. Il y a beaucoup de gens qui vont souffrir le long du chemin, c'est évident. Mais je crois que le pire est juste derrière nous. Les chiffres vont être encore plus mauvais pendant quelques semaines, quelques mois, parce qu'ils reflètent un peu la réalité de maintenant. De fait, je crois qu'on peut être relativement optimiste de ce point de vue-là.
Mais vous avez parlé de gens qui allaient souffrir, avec des secteurs économiques qui risquent d'être sinistrés pour longtemps, non ? Le tourisme, les transports aériens, etc.
Non, absolument. On va avoir beaucoup d'effets sectoriels qui vont être très forts, manifestement, sur le tourisme, la restauration, l'hôtellerie. Tout ça, ça sont des changements à long terme, certainement. Et il y a des secteurs qui vont souffrir de manière permanente. Il y en a d'autres qui vont probablement gagner. Tout ce qui est technologie va probablement gagner. Mais certainement, il va y avoir un processus de ce qu'on appelle réallocation en termes techniques entre les secteurs qui va être difficile, qui va être douloureux pour beaucoup de secteurs et qui va durer très longtemps. Mais je parlais plus de l'économie dans son ensemble. Je pense qu'on peut retourner à un niveau à peu près normal dans 6 mois, un an et demi.
Oui. La France et la plupart des pays développés ont mis en place de solides filets de sécurité à coup de chômage partiel, d'exonération de cotisations. Jusqu'à quand, jusqu'à quel point les États peuvent ainsi prendre à leur charge une bonne part de l'activité économique ?
Pas éternellement, mais encore plus longtemps, et c'est absolument essentiel. Je crois que la réalité, c'est qu'on ne peut pas maintenir le revenu de tout le monde, parce que quand l'économie marche pas à plein, on ne peut pas maintenir le même revenu pour tout le monde, mais il faut absolument aider les gens et les entreprises qui sont en difficulté. On peut le faire encore un certain temps, ça va coûter de l'argent, il faut être prêt à le faire, mais c'est absolument nécessaire. J'espère qu'on pourra passer doucement à un autre régime, mais là encore, c'est pas le moment de changer les programmes.
Quitte à gonfler les dettes publiques à des niveaux qui paraissaient déraisonnables il y a encore quelques mois, 120, 130, 150% du PIB, comme bientôt en Italie.
Oui, on a une chance dans cette crise, c'est que les taux d'intérêt avant la crise étaient très très bas, proches de zéro pour les pays comme la France quand ils empruntaient, et que ce sera probablement le cas pendant très longtemps, que tous les facteurs de la crise font que c'est encore plus probable que les taux d'intérêt vont rester bas. Et donc la charge de la dette va rester très faible. Alors on peut pas être absolument sûr, mais de fait on peut s'offrir, et c'est un des avantages de ces taux d'intérêt bas, on peut s'offrir une dette plus élevée. Il faudra un jour la diminuer, mais il n'y a pas urgence. Et donc on peut en effet monter à des niveaux de dette beaucoup plus élevés. On a vu que c'était possible, hein. C'est ce qui s'est passé au Japon depuis des années, et le Japon n'a pas eu de problème particulier. Ça va être long, ça va être dur, mais on peut le faire.
Et donc pour simplifier, vous nous dites, aujourd'hui, les déficits publics, ce n'est pas un problème, la dette, ce n'est pas un problème.
Non, je n'irai pas jusque-là, mais ce n'est pas un gros problème. Ce n'est pas le problème du moment. Pour le moment, la priorité, c'est de faire que les gens ne meurent pas de faim, que les entreprises ne fassent pas faillite. Et c'est la priorité. Et si on augmente la dette, on s'en occupera plus tard. Et ce n'est pas catastrophique.
Et puisque les banques centrales sont entrées en action en Europe, en Angleterre et aux États-Unis, elle crée de la monnaie, on disait autrefois, faire marcher la planche à billets. Il n'y a pas un risque d'inflation à terme, Olivier Blanchard ?
Il n'y a pas de risque d'inflation à court terme, sûrement, parce que pour le moment, le problème, c'est plus la déflation, la diminution de beaucoup de prix de matières premières, etc. Un chômage élevé a tendance à avoir les effets déflationnistes, donc je pense qu'on va avoir une inflation faible à court terme, disons dans les années qui viennent. Éventuellement, en effet, si le problème de dette se révélait être un vrai problème, et on le verra plus tard, à ce moment-là, il est possible qu'on ait recours à l'inflation, comme ça a été le cas dans le passé. Je pense que c'est peu probable, j'espère qu'on l'évitera. C'est possible, il y a une toute petite chance qu'à terme, on ait plus d'inflation, oui.
Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI, vous restez avec nous. On va parler des promesses du monde d'après, s'il y en a un, moins global et plus local.
Europe 1, de 9h à 10h, vous écoutez Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Avec l'économiste Olivier Blanchard qui nous parle de Washington, alors que tout le monde parle de déglobalisation et de relocalisation d'une partie des chaînes de production. Est-ce que vous imaginez, vous, ce mouvement se produire et à quel coût?
Ben, je pense que ce mouvement, il va se produire, probablement pas sur l'échelle catastrophique que vous avez décrite, mais il y avait certainement des hésitations sur les effets du commerce international avant la crise. La notion que même si ça bénéficiait beaucoup de manière générale aux consommateurs, avec des prix beaucoup plus bas, ça avait des effets de distribution, des effets assez durs, qui étaient très coûteux, là encore, en termes humains. Donc il y avait déjà une réflexion et une hésitation sur le commerce international avec l'apparition de barrières, de guerres commerciales. Il y avait également des inquiétudes au point de vue sécurité, que les frigidaires chinois, quand on les importait, auraient des microchips cachés et nous surveilleraient, etc., etc., etc. Là, je pense qu'il va y avoir un nouveau facteur qui va être le facteur géopolitique, que si la Chine et les États-Unis s'entendent mal, ce qui peut être un des produits de cette crise, ils s'entendaient pas très bien avant, mais ils peuvent s'entendre encore plus mal, les entreprises vont hésiter à produire en Chine pour rapatrier les biens qu'elles vendent dans les marchés européens. Donc, je pense qu'on va avoir une certaine relocalisation, une certaine réflexion sur les chaînes de production, probablement une rapatriation vers l'Europe de l'Est, en Europe. Ça va être assez coûteux pour un certain nombre de pays plus pauvres qui avaient fait le pari de l'exportation et qui risquent d'avoir des difficultés, oui.
Donc, en clair, une partie de l'Extrême-Orient qui était ces dernières années, qui était devenue l'atelier du monde.
Oui, je pense qu'ils vont largement le rester, mais probablement moins que ça n'aurait été le cas, oui.
Et les petits revenus de nos sociétés qui peuvent aujourd'hui acheter des produits à bas prix fabriqués en Chine, ils risquent pas de faire partie des perdants de cette relocalisation, Olivier Blanchard?
C'est la raison pour laquelle je pense qu'on n'aura pas une grosse relocalisation, parce qu'une grosse relocalisation, c'est des prix plus élevés. Et on le voit d'ailleurs maintenant avec les fraises en France, c'est que les fraises françaises sont plus chères que les fraises espagnoles et que les consommateurs, à un moment, ont envie d'acheter des fraises pas trop chères. Donc je pense qu'il y a de bonnes raisons pour lesquelles on a le commerce international. Ces raisons-là vont rester. Mais en effet, il y aura plus d'hésitation, probablement un peu plus de protection. Là, j'espère et je pense qu'il n'y aura pas de catastrophe. C'est un peu comme la dette. Je suis relativement optimiste. On peut imaginer des scénarios un peu inquiétants. Mais je pense qu'il y aura une relocalisation limitée, justement à cause de ces effets de prix. C'est que les consommateurs ne sont pas prêts à payer 2 ou 3 fois plus pour les produits qu'ils achètent.
Quand vous étiez au FMI, au Fonds monétaire international, Olivier Blanchard, vous aviez préparer un plan en cas de pandémie. En tout cas, vous aviez réfléchi aux conséquences économiques d'une telle crise. Je vous pose la question avec un peu d'ironie. Est-ce que les choses se déroulent comme prévu?
Absolument, exactement. Non, je réponds avec un peu d'ironie aussi. Non, et c'est assez frappant et assez important. Bien sûr, on avait fait un scénario de pandémie, on essayait de réfléchir à des scénarios justement de catastrophe, et on avait prévu un certain nombre de choses, mais la réalité est infiniment plus compliquée. Et je crois qu'il y a un message général, c'est que on est tout de même vraiment dans le brouillard. Que les gouvernements sont dans le brouillard, même s'ils sont informés au mieux, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et donc, on est dans un moment où les politiques économiques doivent être assez flexibles, changer. On doit admettre qu'on a fait des erreurs. Et les gens ont un peu de mal à l'accepter. Je crois qu'il faut accepter le fait que pendant un bout de temps, on va piloter au nez. on va voir, et accepter le fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Mais certainement, notre rapport sur la pandémie n'avait pas capturé tous les aspects qui sont infiniment complexes. On les découvre tous les jours.
Par exemple ?
Par exemple, l'effet sur les fraises espagnoles. Je vous assure que ça n'était pas dans notre exercice.
À cause des saisonniers qui sont empêchés de les ramasser en France, je précise.
Et puis les problèmes de réseau de distribution, on n'a absolument pas réfléchi à ce qui se révèle être très important, ce qui est ce qu'on appelle en anglais social distancing, c'est-à-dire la nécessité d'avoir des distances entre les gens. On n'avait absolument pas réfléchi à toutes les applications que ça a sur les chaînes de production, par exemple en matière de viande, qui se révèle être un énorme problème aux États-Unis. L'organisation de la production de viande est basée sur des postes de travail qui sont très proches les uns des autres. Donc le résultat a été énormément d'infections, énormément de gens qui manquent dans les chaînes et des problèmes de distribution absolument énormes aux États-Unis à l'heure actuelle. On n'avait pas réfléchi à ça.
C'est une somme d'inconnus et d'incertitudes. Ça ne rend pas les citoyens forcément plus indulgents pour autant, surtout en France, on le voit en ce moment. Comment s'adresser à des gens qui réclament des réponses précises quand on a en tête que des doutes et des points d'interrogation ?
Je crois qu'en effet, l'opinion française est un peu injuste vis-à-vis des dirigeants. En France, on a tendance à être encore un peu plus injuste et manquer encore plus de confiance par rapport aux dirigeants qu'ailleurs. Je crois qu'il faut que les dirigeants expliquent, et ils le font d'ailleurs, qu'ils n'ont pas toutes les solutions et qu'ils font au mieux. Et que ces zones rouges, ces zones vertes, peut-être qu'elles changeront, peut-être que la structure même du déconfinement changera au cours du temps. Je crois qu'il faut être très humble, très clair, très humble. Il faut beaucoup de communication, mais les Français sont les Français. Et c'est difficile de les convaincre. L'autre chose qui me paraît important à expliquer, c'est que l'État n'a pas des poches infiniment profondes. Donc quand j'entends les gens se plaindre du fait que les masques seront payants, la question c'est qui paiera si ce n'est pas eux. Et donc là encore, il y a une espèce d'illusion sur la profondeur des poches de l'État, sur la possibilité de demander aux riches de payer tout. Et c'est un des problèmes du moment aussi.
Merci beaucoup Olivier Blanchard de nous avoir répondu depuis Washington. Merci à vous.
Merci, au revoir. Europe 1.